semaine. Christine Hernandez, bonjour. Chères auditrices, chers auditeurs, amis du peuple palestinien, vous êtes à l'écoute de Radio Armada pour une émission entièrement consacrée à l'histoire, la culture, les luttes du peuple palestinien pour sa liberté, le respect de ses droits et des résolutions de l'ONU. Aujourd'hui, notre émission va aborder la question des prisonniers politiques en Palestine occupée. Contrairement aux idées dominantes, aux idées reçues, Israël n'est pas une démocratie. L'armée d'occupation tue, emprisonne, persécute les Palestiniens. Israël utilise un système politique répressif, impitoyable, de contrôle sur toute la population palestinienne. Dans cette stratégie planifiée, la question des prisonniers politiques en Palestine est centrale. Israël pratique des arrestations de masse pour briser la résistance. Les chiffres sont glaçants. Depuis 1948, 1 million de Palestiniens sont passés par la case prison. Depuis 1967, année d'occupation de Gaza et de la Cisjordanie, 850 000 Palestiniens, dont 25 000 enfants et 12 000 femmes, ont été emprisonnés. C'est plus de 20% de la population totale et 40% de la population masculine. Selon les sources d'Adamir, ONG des droits de l'homme, en avril 2020, 4 700 prisonniers sont détenus dans les zones, dont 39 femmes, 185 enfants et 7 membres du conseil législatif, dont Marwan Barghouti, 5 fois emprisonné à vie et à plus de 40 ans d'emprisonnement. C'est dire l'acharnement d'Israël. 400 Palestiniens sont en détention administrative. Les conditions de détention sont inhumaines et indignes. Les négligences médicales et la torture sont institutionnalisées. Rappelons que la détention des prisonniers politiques palestiniens est illégale. Elle a été maintes fois dénoncée par l'ONU, mais sans résultat, la communauté internationale se tait. Pour comprendre la stratégie politique d'Israël et nous éclairer par des exemples concrets sur la situation des prisonniers politiques palestiniens, nous recevons aujourd'hui Moncef Chahed, membre du Conseil national de la FPS et membre du groupe de travail prisonnier. Moncef Chahed connaît bien la Palestine pour y être allé plusieurs fois. Depuis des années, il est en relation quotidienne avec le club des prisonniers à Ramallah. Il est un expert de la question des prisonniers. Bonjour Moncef.
Bonjour Christine. Bonjour à tous les auditeurs.
Merci, merci Moncef pour ta présence. C'est avec un grand plaisir que nous te recevons à Radio Armada. Mais avant de commencer notre entretien, comme d'habitude et très rapidement pour te laisser la place, quelques faits d'actualité sur la Palestine. Salah Hamouri, franco-palestinien, avocat, a échappé aux militaires israéliens. Le 20 mai, les forces spéciales israéliennes ont tenté d'enlever Salah Hamouri en plein centre de Ramallah. Depuis des mois, les militaires israéliens interviennent en toute impunité en Cisjordanie occupée pour attaquer les défenseurs des droits de l'homme. Salah Hamouri, ne l'oublions pas, est citoyen français. Le président de la République doit intervenir fermement auprès du gouvernement israélien pour protéger Salah, qui a déjà été emprisonné à 2 reprises pour une durée de 9 ans. Ruba Bilal Afsour est lauréate du prix de la meilleure actrice de télévision israélienne. Elle a renoncé à recevoir son prix. Pourquoi ? Parce qu'elle a protesté contre la décision de tenir la cérémonie le jour de la Nakba. Ce jour est la célébration de l'indépendance d'Israël, dit-elle. Pour moi, c'est un jour triste, un jour d'injustice historique. Elle a été primée pour son rôle dans le film The Dead of Jaffa, qui traite du meurtre en 2014 de l'adolescent palestinien par des colons juifs qui l'ont brûlé vif après lui avoir fait ingurgiter de l'essence. J'invite les auditeurs et les auditrices à assister à la projection du film dès qu'il sera en salle. Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé la fin de la coopération sécuritaire avec Israël et la rupture de toutes les relations avec l'État sioniste et les États-Unis suite au plan Trump, surnommé l'accord du siècle. qui prévoit l'annexion de la vallée du Jourdain, qui prévoit l'annexion de toute la Cisjordanie. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, revenons à notre sujet, les prisonniers politiques en Palestine occupés, avec notre invité Moncef Shaed. Moncef, une première question. Israël mène une politique criminelle envers le peuple palestinien. Quel est son but? Quelle est sa stratégie?
Mais écoutez, le but d'Israël est clair. Semer la terreur parmi la population palestinienne, la soumettre, étouffer toute résistance et toute protestation pour les déposséder de leurs terres et de leurs droits de vivre en sécurité, bien sûr. En Israël, vous savez, il y a des lois civiles qui gouvernent les Israéliens. En Palestine, c'est plus de 3000 ordres militaires qui gouvernent l'ensemble des aspects de la vie quotidienne des Palestiniens et des Palestiniennes sous occupation. Je rappelle un ordre militaire qui a été émis en 1967. C'est l'ordonnance militaire numéro 3. Cette ordonnance comporte l'article 35 qui stipule que le tribunal militaire est tenu d'appliquer les dispositions de la 4e convention de Genève relative aux mesures judiciaires, mais voilà, très vite, cet article 35 est devenu encombrant pour Israël. 3 ans plus tard, le commandant militaire a abrogé cette ordonnance. Donc voilà, on voit que, si vous voulez, la position des militaires en Cisjordanie et autour de Gaza, elle est l'arme israélienne contre ce peuple palestinien.
C'est vrai que c'est important de rappeler systématiquement que le peuple palestinien vit sous des ordres et sur des lois militaires, alors que les Israéliens vivent sous la loi civile. Et quand un colon, par exemple, agresse un Palestinien, il sera traduit devant les tribunaux civils. Par contre, ce qui n'est absolument pas le cas pour les Palestiniens.
Tout à fait.
De justice.
Bien sûr, la stratégie employée par Israël, elle se définit dans les arrestations au quotidien, à l'enfermement et aussi avec les attaques menées contre les maisons. Il y a aussi les destructions des maisons de prisonniers.
Très important.
Il y a aussi, parmi cette stratégie, et on va l'évoquer plus loin, la négligence médicale. Il y a aussi les punitions collectives qu'on va aussi évoquer.
Ouais. Très bien, c'est très clair. Et peux-tu nous dire combien il y a de prisons? Alors effectivement, on va dérouler plus concrètement, parce que les auditeurs, les citoyens ont devoir de savoir à la fois la stratégie, mais comment ça se passe très concrètement. Combien il y a de prisons en Israël?
Alors, en Israël, on compte 20 prisons, plus 5 centres de détention et 4 centres d'interrogatoire. Alors, il s'ajoute à cela, il y a quelques années, Amoked, l'organisme de droits humains israélien, a parlé d'une prison secrète qui s'appelle la section 1391. Bien sûr, Israël a toujours nié l'existence de cette prison. Or, Amoked a tenu bon et même elle a, si vous voulez, porté l'affaire devant l'ONU. L'ONU a demandé à plusieurs reprises à Israël de dévoiler la position ou l'endroit où se trouvait cette prison. Mais Israël a toujours répondu, pour des raisons de sécurité, on ne vous donne pas l'endroit toujours où
pas. Pour des raisons de sécurité, voilà. Au nom de, voilà. Pour des raisons de sécurité, l'arbitraire, les arrestations, Israël agit impunément.
Voilà. Mmh. Alors, il faut savoir que toutes ces prisons se trouvent en Israël. Il y a, si vous voulez, c'est contraire, c'est en violation de l'article 76 de la 4e Convention de Genève. Le deuxième, si vous voulez, la deuxième réponse concernant le pourquoi oui. de ces prisons pourquoi? En Israël.
Bien sûr.
Voilà. Il faut savoir que les familles palestiniennes qui veulent visiter leurs prisonniers sont obligées de demander l'accord aux militaires israéliens. Et bien entendu, on sait que quand il y a un détenu qui se trouve dans les centres d'interrogatoire ou les centres de détention qui sont en attente surtout de procès, on empêche ces familles de voir pour faire pression sur le détenu.
Et l'isoler encore plus.
Tout à fait, tout à fait.
Je crois qu'il y a une prison quand même en Palestine. Il s'agit
Tenue
par Israël.
Alors, je pense qu'il y a une prison qui se trouve très près de la Cisjordanie. Je crois que c'est la prison d'Ofer, si je me rappelle bien. Sachant que d'autres prisons qui existent, par exemple la prison de Megiddo, où se trouvent des prisonniers enfants, mineurs.
C'est ça. On va en parler après. Les enfants sont emprisonnés. Non. Alors, je crois que Megiddo, c'est dans le Negev ou je ne sais plus.
Megiddo, c'est dans le nord d'Israël.
D'accord, voilà.
Voilà, c'est dans le nord d'Israël. C'est-à-dire que, en fait, Israël détient des enfants dans cette prison, loin de leur famille, ce qui, bien sûr, rend très difficile le voyage pour aller visiter l'enfant emprisonné.
Tout à fait. On va en parler justement, mais pour dérouler notre échange, il y a bien sûr la détention, mais il y a aussi les arrestations. Parce que les arrestations sont déjà contraires au droit international, elles sont complètement illégales et elles se font tout le temps, la nuit comme de jour. Les militaires rentrent dans les maisons, frappent les parents devant les enfants, bousculent les enfants. Voilà, je crois que est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement comment ça se passe?
Alors, la plupart du temps, bien entendu, les soldats attaquent la maison, ils défoncent la porte. Il commence à fouiller la maison, il isole toute la famille dans une pièce et puis il procède à des fouilles tout en cassant tout objet qui se trouve devant eux. Et cela, c'est pour se venger de cette famille. Après, bien entendu, on interpelle le papa, on le frappe devant son épouse, devant ses enfants, pour l'humilier. Parce que l'humiliation d'un papa devant les enfants, vous savez, c'est la punition aussi collective. Et une fois que la personne qui sont venues chercher est isolée, bien entendu, on va lui attacher les bras derrière, les mains derrière le dos. Ils mettent bien sûr sur les yeux
ils bandent les yeux
et ils le traînent à l'extérieur, ils le font monter dans une jeep militaire. Et il faut savoir que les soldats dans cette jeep, eh bien, ils se donnent à cœur joie pour taper cette personne. Alors, cette personne, elle peut être un homme, une femme, un jeune, c'est pareil.
C'est pareil.
Donc, en plus de ça, il faut savoir que une fois arrivé au centre d'interrogatoire, avant de laisser la personne qui est interpellée, eh bien, pareil, ils usent de violence contre lui. Pour eux, c'est le préparer, le soumettre pour qu'il puisse dire ou reconnaître ce qu'on lui reproche.
Et je sais qu'on leur met également des sacs, mais toujours les mêmes sacs qui vont à tous les prisonniers. Donc, le sac sur la tête, sur le visage est très, très sale. Ça contribue au manque d'hygiène et en même temps à l'humiliation.
Il faut savoir aussi qu'on les attache sur des chaises basses et on leur appuie sur les épaules pour qu'ils tombent en arrière. La plupart du temps, un interrogateur se met sur les genoux, l'autre, il tire bien sûr la personne par les épaules et il l'attache le plus bas possible. Et ça, c'est une position vraiment très, très douloureuse ce que racontent les gens qui sont passés.
Alors, voilà, c'est ça. Tu viens de le dire, les conditions d'arrestation, après il y a la détention provisoire, mais ça, je sais pas, on essaiera d'en parler plus tard, si nous avons le temps, sont inhumaines. Mais maintenant, parlons des conditions de détention, des négligences médicales également, et si tu pouvais nous évoquer les essais thérapeutiques, ainsi que la torture, voilà. Donc, on va aborder toutes ces questions. Je suis désolée, mais comme nous sommes sur Zoom, le temps est très court. Nous sommes obligés de cadrer l'interview de façon un petit peu soutenue.
Alors, je peux vous parler de la torture, vous voulez, en premier.
Oui, la torture.
Voilà, la torture comporte, si vous voulez, une part de pression psychologique. On menace le détenu en lui disant qu'il sortira de l'interrogatoire paralysé, fou ou même mort. Et on lui donne en même temps les noms de tous les prisonniers qui sont morts lors d'un interrogatoire. Tout ça, c'est pour faire pression sur le détenu. Il faut savoir que la torture est légale en Israël. Je rappelle que la commission dirigée par Moshe Landau, ancien président de la Cour suprême, utilisa l'argument légal de nécessité pour permettre le recours à des pressions physiques et psychologiques pendant l'interrogatoire. Ce n'est pas interdit en Israël de torturer un détenu.
D'ailleurs, Richard Falk avait dit qu'il était indigné, qui était le représentant de l'ONU pour les droits de l'homme, avait dit qu'il était indigné par la violation continue des droits de l'homme dans les prisons israéliennes. Tout à fait.
Quant aux prisonniers qui sont malades et détenus dans les prisons israéliennes, il faut savoir que les autorités israéliennes d'occupation pratique délibérément une politique de mort lente, ça, contre les prisonniers malades. Elle ne donne aucun soin et retarde l'examen médical, et cela pendant des années. Je donne un exemple, un prisonnier qui souffre d'une maladie. Déjà, il reste au moins 3 ans avant qu'il puisse voir un médecin pour déceler ce qu'il a. Bien sûr, Israël ne paye pas ses...
Oui, ne prend pas en charge médicale.
Ne prend pas en charge. Donc, elle dit aux prisonniers, soit la famille paye et on va faire le reste, soit on ne peut rien faire et vous restez comme ça.
Ben, c'est de la cruauté.
Tout à fait, c'est la cruauté.
Là, c'est de la cruauté.
Alors, tout ça, bien entendu, constitue une violation flagrante de la 3e et 4e Convention de Genève, selon les articles 29, 30 et 31 et 91 et 92 de la Convention de Genève, qui prévoit le droit au traitement et aux soins médicaux, à la fourniture de médicaments aux détenus malades et à la suite d'examens médicaux périodiques. Ce que Israël ne fait pas. Il faut savoir aujourd'hui.
C'est ça.
Voilà. Ce qu'il faut savoir.
Oui, pardon.
Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, il y a 1500 prisonniers malades. Bien sûr, atteints de. Souffrent de maladies diverses, dont 750 qui nécessitent une intervention médicale urgente. Mais Israël ne tient pas compte et leur donne des comprimés juste pour, comment dirais-je, des calmants qui s'appellent Alcamol, d'après les indications que j'ai eues, simplement pour que la personne, soi-disant, ne souffre pas, mais la maladie avance et à un moment donné, bien entendu, la personne est atteinte complètement et c'est irréversible.
C'est irréversible et les personnes, les Palestiniens qui décèdent dans les lits d'hôpitaux, sans parler des conditions épouvantables, absence d'hygiène dans les lits d'hôpitaux, ils sont toujours menottés alors qu'ils sont malades et en fin de vie.
Tout à fait.
L'humiliation et la douleur physique est encore plus grande également et ils sont en fin de vie.
Là, je me permets de rappeler les chiffres. Depuis 1967, 223 prisonniers sont morts dans les prisons israéliennes de torture, de négligence médicale ou tout simplement assassinés dans sa cellule. Le dernier en date, c'est-à-dire le 21 avril dernier, un jeune de 23 ans, il s'appelle Nour Jaber Al-Barghouti, qui... du village d'Alou, qui est mort d'une crise cardiaque dans l'indifférence de l'administration carcérale, malgré les appels des détenus et les cris des détenus pour, bien sûr, avertir les gardiens pour leur dire « il est malade, il faut le sauver ».
Est-ce que là, Monsef, le temps file un petit peu trop vite? Peux-tu nous parler d'un exemple concret d'essais thérapeutiques et après nous parlerons du sort des enfants et des femmes. Il nous reste 10 minutes, voilà.
Aïe. Alors,
ce que nous annonce Zoom.
Voilà. Alors, si vous voulez, en 1987, je commence par ça, une députée israélienne a questionné le ministre de la santé de l'époque à la Knesset sur les essais de médicaments. Le ministre a reconnu que des laboratoires israéliens font des essais de médicaments sur les prisonniers. Et il a dit que à peu près 5000 prisonniers ont été, bien sûr, sur lesquels ils ont fait des essais sans leur demander leur
avis, bien sûr. C'est...
Voilà. Y a aussi un sujet qui est vraiment essentiel dans cette affaire. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui plus de 541 détenus condamnés à la réclusion criminelle, à la réclusion à perpétuité, qui va d'une fois à la perpétuité jusqu'à 67 fois. Et il faut savoir que ces prisonniers-là, condamnés à perpétuité, quand ils décèdent, leur corps n'est pas rendu à la famille.
Voilà, voilà.
Et ça rentre dans la politique de punition collective qu'exerce Israël sur le peuple palestinien. Imaginez un père qui décède. Ses enfants ne font pas ne peuvent pas récupérer le corps et ne peuvent pas faire le deuil. Et pareil, la maman, pareil, et les enfants des enfants, c'est pareil. Donc, c'est une punition collective qui est exercée sur le peuple palestinien.
Et alors, il y a un cimetière. Tu m'avais parlé de cimetière des disparus. On parle de quoi,
ce cimetière? Tout à fait. En fait, elle les enterre dans des cimetières en nombre. Et en Israël, il y en a 4 cimetières qui sont connus. Plusieurs fois, si tu veux, il y a eu des échanges de prisonniers. Israël donne quelques corps à l'autorité palestinienne contre, par exemple, quand il y a eu les échanges de prisonniers avec Gaza.
D'accord. Voilà.
Alors, ces corps sont enterrés, si vous voulez, à une profondeur de 50 cm, ce qui fait qu'avec le temps, les corps dérivent et plusieurs de ces corps, soi-disant perdus, et Israël ne sait pas où ils sont. Il faut savoir rapidement que des familles arabes, des familles palestiniennes, à ce jour, demandent les corps de leurs disparus.
Oui. Oui, très important ça, parce que personne, je dirais, ne parle de ces disparus. Pour terminer, parlons des enfants palestiniens qui sont la cible permanente des militaires israéliens, et parlons aussi des conditions de détention des femmes qui sont humiliées avec des agressions sexuelles aussi. Rapidement, et après on passera à notre conclusion. Parce qu'on n'a pas de temps supplémentaire, on vient de nous annoncer, il nous reste 5 minutes.
Alors, il faut savoir que la loi israélienne considère qu'un Israélien mineur jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle estime par contre qu'un Palestinien est adulte depuis l'âge de 16 ans et peut être emprisonné à partir de 12 ans. C'est une loi promulguée le 24 septembre 1967, c'est l'ordre militaire 132 qui décrète, que l'enfant palestinien peut, dès l'âge de 12 ans, être poursuivi, arrêté, incarcéré et condamné par une juridiction militaire et encourir ainsi des peines réservées aux adultes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 185 jeunes palestiniens mineurs qui sont détenus, mais ça, c'est les chiffres, si vous voulez, des enfants qu'on sait qui sont condamnés. Il faut savoir qu'il y a...
d'autres enfants, bien sûr.
Voilà, il faut savoir que en règle générale, il y a à peu près 1000 prisonniers, dont des enfants, des femmes, des journalistes, des professeurs qui sont détenus, et ces gens qui passent, si vous voulez, dans les centres d'interrogatoire et les centres de détention, mais ils ne sont pas comptabilisés. Pour la simple raison, c'est qu'ils n'ont pas été jugés. Et là, je reviens vers un sujet.
Oui, vas-y.
Là, je reviens sur un sujet rapide, c'est la détention provisoire. Il faut savoir qu'un militaire peut arrêter quelqu'un, soi-disant pour des raisons de sécurité. Cette personne, elle va rester en prison et à chaque fois, on va lui déterminer une comparution devant le juge, et à chaque fois que la date approche, on la reporte. Et là, je vous donne un exemple très récent, celui de Mohamed Al-Halabi, que la cour israélienne de Beersheba vient de reporter son procès pour la 138e fois. Ce monsieur est détenu depuis 3 ans. Il n'a pas vu...
J'espère que les auditeurs entendent vraiment ce que c'est que l'arbitraire de l'État criminel d'Israël sur les Palestiniens. Je trouve que ton exemple est très important. Notre émission touche à sa fin. Peux-tu nous donner un mot de conclusion, Monsef? Est-ce qu'un espoir existe? Y a-t-il un espoir? Quelles sont les perspectives?
Vous savez, il y a toujours un espoir. Je pars du principe que tout a une fin. Et l'histoire nous a montré que l'occupation ne dure pas. Ces crimes seront payés un jour ou l'autre, à condition que le monde entier prend en charge la cause palestinienne, parce que c'est une cause juste.
Juste, une question de justice, tout à fait.
Voilà. Ce qu'il faut, c'est nous, en tant que citoyens, c'est interpeller nos hommes politiques, interpeller nos députés pour leur parler de la situation des prisons.
Alors, merci Monsef. Je tenais à renouveler le soutien aussi total de Radio Armada à Salah Hamouri et à tous les prisonniers politiques palestiniens. Justice et liberté pour la Palestine, tu l'as dit. Je t'inviterai avec Alain Desmarais plus longuement une fois que hors confinement, c'est promis, c'est sûr. Avant de terminer, nous allons écouter, j'espère, une chanson que tu as choisie. Dis-nous la chanson que tu as choisie.
C'est Jérusalem, Al-Quds. C'est Fayrouz, la chanteuse Fayrouz qui l'a chantée en 1967, après les massacres et tout ce qui s'est passé et toute cette, si vous voulez, souffrance qu'a enduré le peuple palestinien en 1967.
Alors, écoutons Fayrouz et merci encore et bientôt sur Résistante Chronique Palestinienne avec Radio Armada. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et merci à Alassan qui a la technique et qui est toujours présent avec, et qui agit avec beaucoup d'efficacité.
Merci à vous. Merci.
Merci.
Au revoir. وتمسح الحزن عن الوجه الكيان لأجل من تشردوا لأجل أطفال بلا منازل لأجل من دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام وسقط العدل على المداخل
سقط العدل
Radio Armada.fr. Vous écoutez.